Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Le lien entre ces deux films si différents serait, à première vue, la filiation assumée ou subie, mais au-delà, plutôt la trajectoire de deux hommes à deux âges de la vie qui vont, en contact de la réalité, revenir à l'essentiel. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Un professeur qui a perdu sa vocation va hors les murs de l'école s'engager dans un combat. Bonjour Nicolas Boukreyev.
Bonjour.
Votre 10e film, Comme un fils, met en scène Vincent Lindon, un prof démissionnaire qui va tout mettre en œuvre pour aider un jeune homme à affronter ceux qui l'exploitent. Lui, 33 ans, fleuriste, voit sa vie basculer lorsque sa mère fantasque et excessive revient dans sa vie. Bonjour William Lebguil.
Bonjour.
Face à Agnès Jaoui, dans ce film signé Julien Carpentier, La vie de ma mère, des retrouvailles qui vont tous les deux les changer à jamais. Comme un fils et La vie de ma mère, sur nos écrans mercredi prochain. Enfin, les sorties ciné de la semaine, de Dune à Eureka. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
C'est passé quoi, monsieur? Vous ont agressé?
Non, moi, ils m'ont rien fait, mais ils ont agressé le monsieur. Je faisais mes courses et...
Et après?
Ben après, il y en a deux qui sont partis. Et le troisième, je l'ai ceinturé. Par réflexe, mais...
Et vous êtes qui? C'est quoi votre nom?
Je m'appelle Jacques Romand.
Vous habitez où?
J'habite au 9, rue de la Perrière.
Vous voulez porter plainte?
Ben non, enfin... Non, je comptais pas porter plainte.
Bon, de toute façon, vu son âge, ça sert à rien.
Pourquoi?
Bah là, on va juste le garder en cellule pour la nuit. On va appeler un juge, il va l'envoyer dans un centre. Et comme on peut pas le garder de force là-bas, il partira après le petit-déj et puis retournera dans la rue. Voilà.
Mais c'est tout?
C'est tout.
C'est tout. Témoin d'une agression dans une épicerie de quartier, Jacques Romand, Vincent Lindon, va peu à peu découvrir le sort réservé au jeune voleur Rome Victor, 14 ans. Mais comme un fils, votre film Nicolas Boukreyev a démarré quelques minutes avant. Très beau début, sans parole, sans musique. Un corps d'acteur, un homme, entre dans son établissement scolaire, enlève l'étiquette de son casier de prof et quitte l'école. Parce que la jeunesse du film, c'est, après l'assassinat de Samuel Paty, l'idée de raconter l'importance de la figure du professeur, avant tout.
Tout à fait. En fait, j'ai été, comme tout le monde, horrifié par... La tragédie qui a frappé Samuel Paty, et je me suis dit, mais là il se passe quelque chose de très important, c'est que le professeur n'est plus seulement un personnage de la vie civile, mais ça devient un héros de la vie civile, puisque le héros est précisément celui qui peut mourir de son engagement. Oui. Et là je me suis dit, donc ça vaudrait le coup de faire un film à ce moment-là, de faire un film sur l'éducation, mais en fait sur la figure du professeur. Et donc je savais bien qu'il y avait beaucoup de films sur l'éducation, mais quasiment tous, en tout cas tous à ma connaissance, se passaient dans l'enceinte de l'école, du lycée, du collège. Et donc c'était autant des films sur des profs que sur des classes, que sur l'éducation nationale. Et je me suis dit, non, maintenant on parle d'un héros. Donc je peux prendre un personnage de professeur qui soit en dehors de l'école et le gérer entièrement en dehors de l'école, comme il y a des tas de polars qui sont sur des policiers qu'on ne voit pas dans leur commissariat. Oui. Là on parle d'un héros. Donc je me suis dit, voilà, je vais prendre ce héros, je vais le prendre, un héros qui est en crise, ce qui est la base de beaucoup de bons scénarios. Donc je vais prendre ce personnage qui est en crise de foi, parce que la façon dont se pratique l'éducation dans l'enseignement, enfin dans le collège où il travaille, ne lui convient plus. Et comment faire pour donner à ce héros de nouveau un sens? Ben, c'est de le confronter. Et je me disais à ce moment-là, une sorte d'enfant sauvage. Pensez à Oliver Twist, pensez au magnifique film de Truffaut.
Il s'appelle pas Victor par hasard, d'ailleurs, le jeune garçon. C'est comme Victor de l'Aveyron.
Mais c'est comme Victor de l'Aveyron, l'histoire qui a inspiré Truffaut. Mais c'est un hasard complet, en fait.
Parce que.
Si, complètement. Je vous jure que c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, comme je voulais que cet enfant qui arrive de Roumanie, je voulais raconter que ses parents l'ont laissé dans une orphelinat et s'en foutaient de lui, je me suis dit, ils lui ont forcément donné le prénom le plus usuel qu'il y a en Roumanie. Donc j'ai cherché sur Internet quel était le prénom le plus basique.
Ouais.
Pour dire, ils l'ont appelé du prénom qui circule. Et c'était Victor. Et je me suis dit, voilà le genre de bonne coïncidence
comme
qui parfois préside
les mannes de François Truffaut
aux écritures des films.
Voilà. Et vous rendez hommage aussi à des professeurs que vous avez eus, qui vous ont tracé.
Parce qu'à partir de là, quand j'ai eu cette histoire de Patty, j'ai donc pensé à ce figure de héros, puis je me suis repensé à mes professeurs. Et puis je me suis rendu compte qu'on avait tous, un ou une maîtresse, un ou une prof de collège, de lycée, qui ont changé nos vies, voire plusieurs. Et non seulement on s'en souvient, on se souvient de leur nom.
Oui, bien sûr.
Donc j'ai distribué dans le film des petits hommages, d'ailleurs, il habite dans la rue de mon prof de CM1 qui m'a poussé à écrire, qui m'a dit « toi tu dois écrire, ça peut être ton destin », il avait raison. Il y a mon prof de collège qui nous avait ouvert au ciné-club, qui citait là directement. Et voilà, donc j'avais envie de rendre hommage en fait à ces gens. Quoi.
William Labguil, vous vous souvenez d'un nom de professeur que vous avez eu, qui était important.
Oui, tout à fait, Monsieur Ponsard, prof de philosophie.
Ah ouais.
Ouais.
Donc qui m'a
beaucoup marqué. En terminale.
Et vous, d'ailleurs, c'est temps de leur rendre hommage. Est-ce qu'il y a des noms de professeurs?
Oui, Madame Da Silva en 6e, prof de français formidable.
Voilà. Monsieur Ruby.
Tout le monde peut jouer à ce jeu. C'est incroyable. Des années, des décennies plus tard, on se rappelle d'eux, on se rappelle de leur physique, on se rappelle de leur nom.
Lui a perdu sa vocation, Lindon roman dans le film.
Bon, Jacques, ça y est, c'est assez duré, non?
Qu'est-ce qu'il y a, c'est vrai?
Qu'est-ce que tu fous, là? Tu vas revenir, quand même, non?
Je sais pas, le salaud. Non, je crois pas, non. T'as changé de main de cette cigarette,
non? Arrête, ça va, c'est bon, tu... Tu vas pas bloquer pendant des mois pour une embrouille avec deux gamins, c'est bon, ça nous arrive à tous, ça.
Mais c'est pas l'embrouille. C'est plus profond que ça.
Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi?
J'ai l'impression que j'arrive plus à les comprendre. Je sers à quoi? Je leur apporte quoi, moi? J'ai l'impression que je sers plus à rien.
Tu crois que je les comprends, moi? Bon, écoute, de toute façon, c'est même pas ça qu'on me demande. Juste, tu déroules ton programme, et tant mieux pour ceux qui suivent.
Tu déroules ton programme? Mais tu te rends compte de ce que tu dis, là, ou non? Mais on fait quoi avec les autres? On les laisse crever, ça? Je les laisse crever, les autres?
De toute façon, la bataille est perdue depuis longtemps.
La bataille est perdue depuis longtemps. Mais non, mais j'ai eu envie d'être prof pour penser comme ça, moi. T'as eu envie d'être prof pour penser comme ça? Tu trouves que c'est intéressant de désabuser?
Oui, je suis pas désabusé, Jacques.
C'est trop facile.
Elle est lâchée, les mômes, c'est pas trop facile, ça?
On a l'impression que c'est Lindon qui pourrait parler comme ça dans la vraie vie, Nicolas Boukreev, comme s'il s'énervait, enfin je veux dire, vous voyez, il se révoltait.
C'est-à-dire qu'en fait, Vincent, c'est une belle rencontre, parce qu'on s'est rencontrés très tôt sur ce projet, en fait. Ça s'est fait à l'ancienne, on s'est retrouvés autour d'un café avec le producteur Richard Grandpierre, qui nous a fait nous rencontrer, et en disant, je pense que vous pourriez faire un film ensemble. Vincent me dit, oui, ça serait bien qu'on fasse un film ensemble. Et je lui ai sorti ce pitch. Franchement, il y a 2 ans, parler d'un prof en crise qui s'occupe d'un jeune Rome, c'était pas un sujet à la mode, j'étais persuadé que ça intéresserait personne. Mais comme Vincent est très en accord avec ses idées, il a tout de suite sauté sur ce pitch. J'ai commencé à écrire avec Éric Bénard, avec qui j'écris souvent, pour lui ou pour moi d'ailleurs, parce qu'il est aussi réalisateur. Et on a commencé à écrire cette histoire. C'était très intéressant parce que du coup, je lui faisais lire, j'avais jamais fait ça, des versions au fur et à mesure. Et il affinait son caractère et son personnage, ce qui fait qu'on s'est retrouvés. On était déjà très complices et on se connaissait. Et on s'aimait beaucoup avant même le tournage. Donc on peut avoir l'impression que c'est Vincent qui parle comme ça, parce que c'est un peu Vincent qui parle comme
ça. C'est son côté chevalier blanc, en fait, dans pas mal de films.
C'est ce qu'il est, en fait. Il est ce personnage-là. Pour moi, c'est le Tom Hanks français. Il peut incarner ces valeurs-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans la vie, honnêtement, hein, c'est quand on le connaît, il est travailler avec lui, c'est à la fois épuisant, passionnant, poétique, drôle. Il est c'est quelqu'un d'honnête. Et donc, pour ce genre de rôle, il est absolument idéal.
Et pourquoi la communauté rome? Est-ce que vous sentez qu'elle était victime d'un racisme?
Alors, il y a plusieurs choses. Je me suis dit, je voudrais un enfant sauvage. Qui sont les enfants sauvages aujourd'hui? C'est les mineurs isolés. Donc, il y avait plusieurs sortes de mineurs isolés. Il y a les jeunes marocains qui sont dans la goutte d'or, mais alors eux sont souvent excessivement drogués, donc c'était pas mon sujet. Et je voulais raconter, comment ce jeune enfant sauvage va redonner aussi goût à ce prof d'exister. Donc, quelqu'un d'une communauté que nous ne connaissons pas. Et les Roms sont quand même des gens qui sont unanimement méprisés plus que détesté même, y compris on va voir des stand, j'allais voir des stand-up avec des comiques qui viennent de seconde génération, de parents venus de l'Algérie, du Maghreb en général, et qui tapent sur les Roms. Enfin, c'est ceux sur lesquels tout le monde est d'accord. Donc je me dis tiens, c'est intéressant d'aller chercher vraiment. Et c'est des certains enfants. Il y a une grande partie de la communauté qui quand même essaie de se sédentariser, qui essaie de s'intégrer difficilement dans la société française. Et puis une partie qui reste sur la frange et qui sont des jeunes adolescents que j'ai rencontrés, qui ont une culture de la rue, mais qui sont souvent, qui ne savent ni lire ni écrire, donc ça me permettait de faire ce remake, en quelque sorte, de l'enfance.
Et alors, Vincent Lindon, dans le film, va voir la police pour savoir un peu comment, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces garçons-là.
Je suis venu voir parce qu'en fait, les gens qui l'ont interpellé, ils ont sûrement noté une adresse ou quelque chose, un renseignement, j'en sais rien.
Non, pas à ma connaissance, ils ont rien noté. Enfin, vous savez, ces mômes-là, ils n'ont jamais de papier sur eux. Jamais. Tant qu'on ne sait pas qui sont les parents, ils sont quasiment impossibles à identifier.
Et il faut le retrouver, cet enfant. Parce qu'il est en danger. Voilà, j'ai le sentiment qu'il est en danger, cet enfant.
Je comprends votre émotion, mais faut pas vous en faire trop non plus, monsieur. Des parents brutaux qui tabassent les gamins quand ils n'ont pas fait suffisamment d'argent à la fin de la journée, ça existe, c'est vrai. Je vais pas vous dire le contraire. Enfin, c'est devenu plutôt rare. Et ça n'empêche pas ces gamins d'aimer leurs parents.
Donc en fait, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a aucun moyen de le retrouver, c'est ça? C'est ça que vous me dites?
Nous, on ne peut rien faire. Mais très franchement, les Roms, ce n'est pas notre plus gros souci.
Ce dialogue, c'est le fruit d'une enquête, j'imagine, Nicolas Boukreyev.
Oui, oui, tout à fait, oui, d'une enquête. On fait des enquêtes quand on traite des sujets qui sont des sujets actuels et sociétaux, il faut enquêter. Donc j'ai enquêté et j'ai découvert ça. Par exemple, le service de la police que j'ai rencontré qui s'occupe des Roms, parce qu'il y a un service qui leur est dédié, ce n'est pas un service qui travaille sur la délinquance, c'est un service qui travaille sur la protection de l'enfance. Mmh. Parce que le vrai... Ben oui, parce qu'en fait, ils vous disent, les policiers, vous savez, il ne faut pas trop les craindre, ils font des rapines. C'est vraiment Oliver Twist. Les jeunes Roms, il y a très peu de faits divers avec des jeunes Roms qui auraient agressé des gens, assassiné des gens. Parce que le principe, c'est de passer sous les radars, justement. Donc, la police a autre chose à faire, on le sait bien, que de s'occuper de voleurs de portables ou de voleurs de sacs à main. Par contre, le vrai travail, il est pour les protéger des parrains qui... Je parle là d'une minorité, attention, dans les Roms. Hein, mais dans cette minorité, ben, c'est de protéger ces enfants de ceux qui les obligent à ces sortes de groupes, de petits groupes de gamins qui partent toute la journée pour essayer de ramener de quoi satisfaire leur souteneur, j'ai envie de dire.
L'acteur est vraiment bien, il s'appelle Stéphane Virgil Stoica, c'est ça, vous l'avez trouvé en Roumanie.
Oui, alors ça, c'était notre démarche. J'ai commencé par chercher des adolescents dans la communauté Rom en France, Rom de Roumanie, j'entends, et j'ai rencontré des adolescents qui étaient magnifiques, qui étaient très puissants, qui étaient tout à fait capables de jouer, mais au moins trois. Et avant de passer aux essais, je me suis dit, mais c'est pas bien ce que je vais faire, parce que je vais prendre des... Ils vivent dans des conditions déplorables, hein, vraiment, hein, des conditions... Moi, je trouve qu'ils font un peu honte à la République, hein. Mais je me suis dit, je vais prendre un gamin qui n'a rien demandé, je vais le sortir de ses conditions de vie, je vais en faire un acteur. Pendant tout le temps du tournage, il va être vraiment adoré, chouchouté par toute l'équipe. On sait ce que c'est quand c'est un jeune acteur. Et puis à la fin du tournage, on va dire, salut, hein, retourne dans ton ghetto. Nous, on va continuer à faire du cinéma. Et on va le vriller. On sait que c'est fragile. On sait l'exemple de Gérald Thomassin, le jeune acteur de Scheherazade. On sait que prendre des adolescents qui n'ont rien demandé en faire des acteurs peut donner des résultats catastrophiques. Alors maintenant, pour les mômes de banlieue, il y a quand même beaucoup de films où il y a beaucoup de rôles. Mais je me suis dit, un petit Rome, qu'est-ce qui va lui arriver derrière? Je vais jouer à le Dr. Frankenstein, je vais peut-être faire un massacre. Donc je suis parti dans une démarche inverse, je me suis dit, je vais partir en Roumanie, dans les écoles de théâtre, chercher un jeune acteur dont c'est la vocation, qui a choisi ça, et ce film sera pour lui une chance et pas une malédiction. Et je suis parti là-dedans. Et il s'est passé une chose incroyable, c'est que donc, je suis tombé sur ce jeune Stéphane qui était magnifique, mais qui n'était pas Rome, parce que j'ai aussi vu des acteurs en Roumanie, des jeunes Roms qui voulaient être acteurs, et je me suis dit, je vais en faire un métis. Après tout, Al Pacino n'a jamais été cubain, hein, donc on fait du cinéma. Et en fait, j'ai découvert que chez les Roms, les métis sont mal vus. Donc ça me permettait encore plus de faire cet enfant absolu. C'est-à-dire que ça devenait plus un film sur les Roms, la communauté Roms, un peu théorique, ça devenait une histoire sur un enfant unique, un enfant sauvage, un enfant absolu, en quelque sorte, qui mène au sein de sa communauté...
Victime du racisme.
Victime de l'ostracisme. Donc ça devenait un prof absolu, un élève absolu, ça pouvait faire mon sujet.
Et avec Vincent Lindon, donc, ils vont dialoguer en anglais, puisque ce garçon parle anglais. Et pardon à Vincent Lindon, mais on l'a doublé parce qu'on a doublé cette scène de dialogue entre lui et le jeune garçon.
What do you do?
Tu fais quoi quand t'es pas dans la rue?
In the street. And
et what did you do? Tu faisais quoi en Roumanie?
You went to school.
À l'école?
Little.
Un peu.
Little.
Un peu.
You learn English.
T'as appris l'anglais en Roumanie?
YouTube. More easy than school.
Plus facile que l'école.
You would like to go to school?
T'aimerais aller à l'école en France?
Non,
je dois travailler pour mon oncle.
Ton oncle?
C'est
qui?
You and your uncle.
Vous vivez où, vous? Toi et ton oncle?
Where do you come from?
Tu viens d'où, Victor?
Tell me where.
Dis-moi d'où tu viens.
Europe.
D'Europe.
La Roumanie, c'est l'Europe.
J'ai le droit d'être ici.
Oui, t'as le droit, oui. C'est... When did you arrive in...
T'es arrivé quand en France?
Hein?
2 months ago.
Il y a 2 mois.
With my uncle.
Avec mon oncle.
After I leave
en sortant de l'orphelinat.
Now I work for...
Maintenant, je travaille pour lui.
I come here to...
Je suis ici pour trouver du cash.
If you call
si tu rappelles la police, il me punira plus fort.
Bizarre, hein, de doubler Vincent. Non, c'est pas mal,
c'est
hein.
Un joli montage, merci de faire écouter ça. Je sais pas si Vincent écoute cette émission, par contre, s'il écoute cette émission, je pense qu'il doit être fou.
Oui, mais comment
faire
pour
tellement parfait. Non, mais c'est pour ça que moi je vous remercie.
Pour que les auditeurs comprennent un peu ce dialogue.
Mais
tout le monde ne parle pas anglais.
Je sais pas s'il écoute.
Comment ça s'est passé tous les deux?
Alors, ça c'était merveilleux. Parce que... Il s'est passé hors champ ce qui se passe dans le film. Ce jeune acteur était dans une école de théâtre. Alors c'est vrai qu'en Roumanie, ils parlent tous les adolescents que j'ai vus parlent tous parfaitement l'anglais.
Ah oui.
Tous, y compris certains jeunes roms, etc. Parce que c'est l'avenir. Il y en a beaucoup.
Ils parlent plus français, hein, parce qu'en Roumanie, la deuxième vraie première langue, c'était le français.
Ouais. C'est devenu très compliqué. Ils font des cours de français, mais ils écoutent pas. En fait, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Par contre, ils parlent tous l'anglais parfaitement. Donc, quand j'ai rencontré ce gamin qui ne parlait que l'anglais, je me suis dit, je vais le coacher pour faire parler français. Puis je me dis, non, je vais tomber dans le cliché que je vais éviter. Je vais me retrouver avec un jeune acteur. C'est pas possible, je vais retomber dans le cliché. Ouais. Et donc j'ai dit à Vincent, tu parles anglais? Mais oui, j'ai dit, tiens, on va basculer sur l'anglais, ça fera au moins, ça sera ce film-là et pas un autre. Et ils se sont rencontrés, et en fait, je dois vous dire, c'était merveilleux, parce que cet jeune acteur n'avait jamais vu une caméra de sa vie, parce que c'était une école de théâtre. Et hors champ, Vincent, moi, quand je dirais jeune acteur, je lui disais ce dont j'avais besoin pour la scène. Mais je voyais Vincent qui lui disait en anglais, tu sais, au cinéma, faut faire ça, au cinéma. Et donc, le hors-champ du film était le film. Il y avait il a eu un professeur particulier de cinéma. Il est une générosité énorme, Vincent, vis-à-vis ce gamin. Il a eu un professeur particulier de cinéma, et Vincent a quand même pas mal d'expérience, qui lui expliquait des trucs. Éternel que moi je n'aurais pas fait parce que moi je suis sur mon film et ça c'était très émouvant. J'étais tous les deux en train de discuter, ce qui fait qu'au bout d'un moment je disais à Vincent, tu sais quoi, on va pas être 15 à parler à ce gamin. Au bout d'un moment du film, je disais à la script, si vous avez quelque chose à dire pour pas que ce gamin se retrouve bombardé d'informations, ben vous passez par Vincent. Et alors Vincent, la script disait, alors il faudrait faire ça, et puis Vincent disait, oui, alors tu dois faire ça, parce qu'au cinéma, et le gamin qui était très intelligent, je veux dire, il est parti de là, il avait une belle formation, quoi.
Et William Labguil, vous avez vu le film de Nicolas Boukreyev.
Ouais, bien sûr.
Ça m'intéresse de votre avis parce que vous avez joué récemment d'ailleurs un prof chez Thomas Lilti.
Tout à fait, dans Un métier sérieux.
Oui. Ouais, et vous avez vu des connexions entre...
Bah oui, bien sûr, il y avait le rôle de François Cluzet qui me faisait vraiment penser au rôle de Vincent Lindon dans le film, parce qu'il vivait un peu la même situation, quoi, une crise de vocation. Et vraiment, j'ai trouvé ça bouleversant, ça m'a beaucoup touché, ouais.
Quel hommage.
Ouais, merci.
Alors que vous, votre rôle dans le film, c'est plutôt un type qui y croit encore.
Oui, tout à fait. Oui, c'est quelqu'un qui vit que pour ça, quoi. Il vit dans le collège. Mon personnage, il a vraiment rien à voir pour le coup. Ouais.
Et en fait, l'histoire, c'est que ce professeur va renaître un peu d'une certaine façon, grâce au jeune garçon.
Les vraies histoires d'amour sont celles où les deux personnages s'enrichissent l'un l'autre. Donc l'idée, c'était de dire que ce personnage qui est en bout de course et qui est probablement en dépression, au contact de cet enfant sauvage, bah, lui-même, ils vont s'enrichir l'un l'autre mutuellement, quoi.
En fait, il ne sait jamais d'être prof.
Non, il ne sait jamais d'être prof, en fait. C'est juste qu'il est en... Non, c'est ce que le film veut dire, c'est que les crises de vocation sont peut-être dans le fonctionnement des institutions.
Oui, mais pas dans la foi elle-même.
Je veux dire que les gens qui sont
dans
les hôpitaux aujourd'hui, il y a une crise de vocation dans les hôpitaux, mais ce n'est pas une crise de croyance dans leur métier. C'est une crise dans l'institut dans lequel ils travaillent. Souvent, quand on est metteur en scène ou scénariste, on parle avec des militaires, et souvent on voit que le problème, il vient de la façon de cette France qui est parfois une vieille dame et qui ne sait pas accompagner les nouvelles générations et ne leur donner les outils ou les environnement qui correspondrait à la passion qui est pour leur métier. C'est ça que le film essaie de dire.
C'est le rite qui est en cause, pas la foi.
Oui, on pourrait le dire comme ça, exactement.
Ça s'appelle « Comme un fils », ça sort mercredi prochain et maintenant, on va vers un garçon et sa mère.
Maman ?
Mon fils ! Mon chéri ! Oh, tu m'as manqué ! Oh. sans nom. C'est quoi? Attends, c'est quoi? Magnolia. Mais j'arrive pas à trouver. Je trouve pas ce que c'est.
Patchouli.
Patchouli! Mais oui, c'est patchouli. Sans moi. Sans moi. Je veux voir si t'as fait des progrès depuis le temps. Allez, sans. Mais sans moi.
Mais je veux pas te sentir.
Mais pourquoi? Tu sais pas, c'est pour ça, hein? Mais si, vas-y, c'est facile. Allez! Allez!
Lavande?
Lavande! C'est ça, c'est le fils de ce moment! Hein? Ça sent bon, hein?
Ouais, très. Et toi?
Comment moi?
Bah sinon, là, comment ça va? Tu te sens comment?
Magnifique. J'ai jamais été aussi heureuse.
Super. Et comment t'es sortie, là?
Par la porte, figure-toi. C'est très pratique, tu devrais essayer.
Pierre, 33 ans, ben c'est de votre âge d'ailleurs, William McGill, fleuriste, vous ne l'êtes pas, voit sa vie basculer lorsque sa mère, incarnée par Agnès Jaoui, fantasque, excessive, revient dans sa vie après 2 ans, sans s'être vue. C'est donc le pitch de La vie de ma mère, premier film signé Julien Carpentier. William, il y a pas mal de rôles jusque-là de nonchalant, ou de sympathique, adolescent. Là, enfin, c'est un rôle de
maturité.
Il a construit sa vie derrière une carapace. Comment vous voulez te raconter ce garçon d'ailleurs?
En fait, ça a été un travail surtout avec le réalisateur, quoi. C'était avec le moment de rencontrer Julien Carpentier, où il m'a passé le scénario, et en fait, j'ai vu quand la première fois que je l'ai rencontré qu'en fait, il fallait que je raconte sa vie, quoi.
Mmh.
Et parce que c'était le personnage du film, et il était en face de moi, quoi. Donc ça a été plein de conversations avec lui.
Et de pression ou pas pour vous?
Non, pas du tout. Non, vraiment pas de pression. Au contraire, vraiment de la curiosité, quoi. Vraiment beaucoup de curiosité.
Il a mis beaucoup de choses de sa propre vie, donc j'imagine. Donc vous avez rejoué des scènes de lui, quoi.
Un petit peu. Après, vraiment, le film raconte pas du tout un épisode de sa vie, quoi. Mais bon, il a grandi avec une maman bipolaire. Et il sait vraiment de quoi il parle, quoi, du coup.
Et vous, vous êtes raconté quoi? Par exemple, il n'y a pas de père dans cette histoire.
Non, il n'y a pas de père, mais en fait, c'est ça. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses qui sont juste des petits détails. On parle, du père.
Vous avez eu besoin, par exemple, vous, de vous raconter une histoire sur le père?
Ah ouais, bien sûr.
Vous savez qui c'est le père.
Oui, bien sûr, bien sûr. Je me suis inventé une petite histoire pour savoir de quoi... pour que ce soit un peu plus palpable pour moi, quoi.
Vous écrivez avant ou vous faites comment?
Non, je travaille avec quelqu'un, et puis on a des conversations et on construit un peu une histoire afin que les dialogues aient plus d'épaisseur.
Ce quelqu'un, c'est un coach, c'est quoi?
Oui, c'est ça, c'est un coach. Ouais, tout à fait.
Mais qui va en profondeur avec vous dans le sujet?
Ouais, en fait, on lit le scénario et on le lit à plusieurs reprises, on le lit beaucoup. Et on a des conversations, on se pose plein de questions, tout ce qui nous vient.
Et vous faites ça à chaque film?
Ça dépend, il y a des films qui ne nécessitent pas forcément.
Non.
Là, pour le coup, ça nécessitait.
Et c'est la même personne avec laquelle vous travaillez toujours?
Ouais, depuis 10 ans.
Mais comment vous l'avez choisi, cette personne?
par Vincent Lacoste.
Ah, ouais, c'est quelqu'un qui a aussi accompagné Vincent Lacoste.
Ouais, mais il accompagne plein de gens. Bon, je vais pas trop, parce qu'il aime pas trop qu'on le dise, mais il accompagne plein d'acteurs.
Votre nouvelle génération, donc.
Oui, et puis des plus vieux.
Mais vous n'avez pas besoin de ça, William Lemieux.
Mais si, on a tous besoin de travailler.
Oui, de travailler. Mais vous pouvez pas travailler seul.
C'est beaucoup plus compliqué, quoi. Vraiment. Oui. Je trouve. Enfin, en tout cas, pour moi qui suis plutôt paresseux et feignant.
C'est pas ennuyeux pour un réalisateur, Nicolas Boukreyev, d'avoir un acteur qui travaille avec quelqu'un d'autre?
Non, pas du tout. Non, parce que chacun ses techniques. Puis il y a des acteurs qui s'isolent pendant 15 jours. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout gênant. Ça peut être gênant si la personne interfère entre votre dialogue, mais si elle complète votre travail, il y a aucun souci.
Mais vous les rencontrez, ces gens-là, comme réalisateur?
En général, moi, par exemple, je prends ma fille, donc c'est ça.
Pas mal.
Mais vous vouliez dire?
Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, ça interfère pas du tout avec le travail avec le metteur en scène. Ouais. C'est vraiment un outil pour arriver sur le plateau, être disponible et avoir un bagage avec soi, quoi.
Et savoir affronter une grande actrice dans une voiture, dans une scène. Non, mais c'est vrai.
Alors, bah, c'est pas, moi, c'est pas un affrontement, mais.
Non, mais affrontement. Je veux dire, vraiment, cas, côtoyer, c'est quelque chose, hein. C'est un petit lieu. Une grande actrice avec vous, une situation un peu difficile parce que elle est en phase up. On écoute la scène.
Bon, on se fait chier là. On peut mettre de la musique ou ça non plus, on n'a pas le droit. La 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 la.
Tiens, vas-y, regarde.
La 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 la.
Là, regarde. Là, t'appuies, tu regardes, tu choisis ta musique, t'appuies sur play, et t'as tout ce que tu veux.
Il y avait une chanson.
Il y avait Annick Sanson.
Kenji Girac.
Michel Berger, Maître Gims, la compagnie créole.
Ah oui!
Il y a tout ce que tu veux.
Il y a France Gall! Oh! Il y a France Gall, il y a toi! Ça me rappelle quand on avait la maison. Tu sais que France Gall était venue à la maison? Oui. J'avais fait un barbecue et on avait même joué à la belote ensemble. Non, t'étais pas là, toi. Non. Je crois que t'étais pas là.
Et elle avait gagné.
Ah.
Ah bah la belote.
Ah mais non. Elle est perdue. C'est pour ça qu'elle n'est jamais revenue.
En fait, c'est un double jeu. C'est-à-dire vous jouez l'acteur, mais vous devez jouer avec votre mère. Vous devez rentrer dans son trip, quoi.
Bah oui, bien sûr. C'est un. Enfin, en tout cas, c'est ce que raconte le film. C'est. Oui. Donc c'est ça, c'est qu'on s'est pas vu depuis 2 ans. Et moi, je la connais très très bien. Je sais. C'est ça aussi les conversations que j'avais avec le réalisateur Julien Carpentier. C'est que il y avait des moments où je me disais, mais c'est bizarre parce qu'il est quand même vraiment. Il est très dur avec elle. Etc. Il rentre dans son jeu. Il y avait plein de choses qui me paraissaient assez étranges. Et en fait, il me racontait, il me disait, oui, mais en fait, il a développé une espèce de radar où en fait, il voit parfaitement tous les petits signes qui vont la mener à une phase maniaque. Mmh. Et donc, il la gère, quoi. Vraiment, ouais. Il la. Et ça, c'était hyper intéressant à travailler. Et avec Agnès, c'était génial parce qu'effectivement, c'est une immense actrice.
Mmh. Et il y a un vrai timing de comédie et en même temps une grande intensité dramatique. C'est ça le cocktail qu'il fallait réussir aussi.
Ouais, bien sûr. Ouais, bah merci, c'est gentil.
Bah ouais.
Mais puis on s'est très vite entendu avec Agnès parce qu'on a finalement on n'a pas tant travaillé ensemble avant le film, quoi. Ouais. On s'est juste vu 2-3 fois pour faire des lectures et puis en fait on est rentré directement dans le vif du sujet le premier jour de tournage et intuitivement c'était délicieux. Vraiment.
Ça fonctionne bien leur duo, hein, Nicolas.
Ouais, formidablement. Mmh. Formidablement. C'est tout ce qu'on attend d'un premier film, je trouve. C'est-à-dire qu'il est sincère, il est senti, on sent bien que c'est autobiographique, donc c'est juste. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de côté m'as-tu vu. Et moi, je voulais vous féliciter sur la qualité de vos silences.
Ah, merci.
Mais vraiment, parce que.
Ils sont aussi du lépine.
Vous avez un rôle dur, parce que vous avez le rôle du clown blanc. Puisque ouais. Annie Ajaoui, qui d'ailleurs est formidable dans le film, hein, vraiment, elle est juste tout le temps, elle est pareille, elle cherche pas à en faire trop, elle est vraiment très réussie, mais c'est c'est la personnalité expressive, et vous êtes en face, or vous êtes le tempo du film, puisque vous êtes nous. Et donc il y a des silences, et vos silences, ils sont toujours justes, ils sont jamais trop longs, jamais appuyés, ils sont toujours ressentis, et donc on ressent, mais parfaitement, mais par vos silences, encore plus que par vos dialogues, l'état de gêne, j'ai envie de dire, qu'on ressent en face de cette femme qui déborde de tous les côtés.
D'ailleurs, lui va déborder à un moment, parce qu'il y a un moment où c'est inacceptable, quoi.
Sérieusement, tu te rends compte de ce que tu fais, là?
C'est pas fait exprès.
T'es là, passer ton temps à dire que je t'ai abandonné, que je suis un monstre, mais tu t'es mis à ma place 2 secondes, tu crois que c'est facile pour moi?
Pardon.
Tu crois que c'est facile?
Non, mais je...
Tu penses que c'est cool d'avoir une mère comme toi, en fait? Non. Non, c'est pas quoi. Attends, en fait, tu penses que c'est normal que je me sois occupé de toi, là, comme un clébard, là, non, mais... pendant toute ma vie, là?
Je fais pas exprès.
Bah, tu me casses les couilles! Voilà! Tu me les casses les couilles, là. Putain.
Je fais pas exprès d'être comme ça.
Non, mais je...
Arrête.
Je sais bien que tu vis pas ta meilleure vie, là, depuis 2 ans, mais putain, moi, je pense à moi, là. J'ai 33 ans, putain.
J'ai compris.
Et je suis bien, là, sans toi, là.
J'ai compris, mais je voulais pas te faire mal. Je suis désolée. C'est la bague, c'est...
Oh. Non, mais c'est bon, c'est vrai,
non,
j'ai pas mal,
non,
j'ai pas
non,
mal.
Non, il faut aller à la pharmacie, là, pour... Parce que ça va s'infecter autrement, hein. Il faut aller te faire soigner.
Il y a un côté dramatique dans cette maladie, quand même, une prise de conscience de ceux qui en souffrent, William Laguil.
Bah ouais, c'est vraiment difficile, quoi. C'est, la maladie, en fait, elle sépare les liens, quoi. Elle coupe les liens entre les gens d'une famille. C'est assez difficile, ouais. Et ça me fait bizarre de réentendre cette scène parce que je déteste m'énerver.
Ouais.
Je déteste me mettre en colère.
C'est votre côté nonchalant.
Ouais.
C'est vrai, mais dans la vie, vous mettez rarement en colère.
Non, ouais, très rarement. Ouais.
Qu'est-ce qui vous met en colère ?
C'est-à-dire que quand je me mets en colère, vraiment, les gens se disent oui, d'accord, là il est ouais, content, quoi.
Et donc, c'est difficile à jouer ?
Oui, c'est en tout cas c'est pas quelque chose que je viens convoquer très souvent. Donc
c'est un beau parcours d'homme aussi cette histoire, parce que c'est comme dans le film de Nicolas Boukreyev, c'est un homme qui au contact de la réalité finalement va devenir quelqu'un d'autre.
Ouais, et puis au contact de la réalité accepter la situation, quoi, et sortir un peu du déni, quoi. Et c'est ça la difficulté, parce que c'est là on parle de la maladie, la bipolarité, mais en fait c'est aussi moi j'ai vu mes parents par exemple quand ils ont été obligés de mettre mes grands-parents en EHPAD, bah ça a été compliqué, c'est difficile à accepter, on se sent coupable, on se sent donc c'est je pense que tout le monde vit ça un peu, cette le moment en fait où on devient le parent de son parent.
Ouais,
c'est très difficile, quoi. Et c'est difficile à accepter, et l'acceptation, c'est une réconciliation.
Ça a joué pour vous, ça, pour
ouais,
votre
bien
rôle.
Sûr. Ouais, ça clairement.
La vocation, elle est venue dans votre petit village de Seine-et-Marne, c'est ça ?
Tout à fait, oui.
À 12 ans, et à 14 ans, vous êtes déjà à Avignon.
Oui, j'ai eu la chance d'avoir un prof de théâtre incroyable, ouais. Olivier Soliveres.
Ouais.
Il est cité.
Bravo. Ouais, il est cité.
Ouais.
Et incroyable, et ouais, moi j'étais au collège, et puis après le collège, il venait me chercher le lundi soir, et puis il nous donnait des cours avec les copains, et puis ensuite il nous a dit, les gars, si vous voulez, cet été on part à Avignon. Et voilà, j'ai eu cette chance de jouer à Avignon quand j'avais 14 ans.
Vous avez joué à Avignon, dans le off ?
Exactement, ouais.
Et après, comment s'est fait le lien avec le cinéma ? C'est Riyad Satouf qui vous a...
Oui, exactement, ouais, c'était pour une web-série quand j'ai 19 ans. J'ai rencontré Riyad pendant un casting, et ensuite j'ai fait son film Jackie au royaume des filles,
ouais.
Et puis c'est devenu un ami, et puis même un mentor, un phare dans la nuit, un phare breton.
Oh bien,
il y a une série aussi, Soda, que vous bien ne sûr. Méprisez pas du tout, hein, au contraire.
Ah c'était... non, pas du tout, non, ça a été une grande chance pour moi, parce que... Bah déjà j'avais un emploi, quoi, puis on m'a donné les clés, on m'a dit allez vas-y, fais n'importe quoi, fais ce que tu veux, régale-toi. Donc je me suis régalé, et puis je passais 6 mois de l'année avec des caméras braquées sur moi tous les jours, donc c'était une école aussi incroyable, quoi.
Ça vous fait pas peur du tout maintenant, c'est bon, vous êtes complètement habitué.
La caméra ?
Ouais.
Ah si, parfois elle fait encore peur, hein.
Ah oui ?
Ouais. C'est quand même, parfois, vous savez, vous... Enfin, en tout cas, quand vous êtes acteur, vous jouez pas parfois pendant 6 mois. Et quand faut se remettre...
Ah oui, c'est
quand
dur.
Quand le premier jour de tournage arrive, bah oui, faut être prêt, quoi.
Et qu'est-ce qu'il y a de
dur ? Ça peut être intimidant, en tout cas.
Une grosse caméra, c'est intimidant.
Pas la caméra en soi, mais en tout cas, exercer son métier quand on l'a pas exercé depuis 6 mois... c'est plus difficile que quand je pense on est boulanger et qu'on fait son pain tous les matins, quoi.
Ça revient vite quand même.
Voilà.
C'est comme
ça, après oui, voilà, ah, ça revient ça, quand même. Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a certains réalisateurs qui retournent. Je sais pas si c'est Woody Allen ou
si.
Qui retourne le premier jour.
Ouais. Oui. Qui retourne le premier jour. Le premier jour va directement à la poubelle et il le retourne, je sais pas, 2 semaines plus tard.
Ouais,
c'est un luxe, ça.
Celui qui a été un peu mon maître, qui était Zulawski, m'avait dit le premier jour de tournage, tourne une scène de rêve, tourne des passages de porte, tourne des choses soit qui sont décalées dans le film, soit qui n'ont aucun intérêt pour le temps que l'équipe, que tout le monde se soude. Mais si tu commences le premier jour par une scène importante, tu peux être sûr qu'elle sera ratée.
Oui, donc tout le monde a peur le premier jour, finalement. Il n'y a pas que l'acteur, pas que l'acteur devant la caméra. La vie de ma mère, Julien Carpentier, ça sort mercredi prochain. Tout comme un fils, Nicolas Boukreyev, vous restez avec nous et on se retrouve pour les sorties après TK Media. One. You playing games on
I'm in love, but you ain't one one. You remind me of a guy that I let go. You remind me of a friend I got too close. You remind me of a man that tried to hold me up. You playing games, I'm in love, but you ain't one one, one one. Started friendly, ended with some promises, empty. You remind me of a man that lied to hold me up. You playing games on the low, but you ain't one one. You remind me of a guy that I let go. You remind me of a friend that got too close. You remind me of a man that lied to hold me up. You playing games on the low, but you ain't one one, one one.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Et si on parlait de ce petit film dont personne ne parle, qui s'appelle Dune, deuxième partie, après le massacre de la dynastie Atreides par les Harkonnen sur la planète Arrakis, les survivants Paul et sa mère Jessica s'enfuient dans les dunes et s'allient au peuple Fremen des sables pour se venger. Paul, selon une prophétie, prédit son avènement comme messie, mais lui craint de basculer dans la dictature. Cette deuxième partie s'avère bien plus guerrière, plus politique aussi, et qui renverse les théories positives du héros. Mais malgré des effets renversants, c'est sûr, Villeneuve s'est créé un univers de toutes pièces. Il s'est dirigé des séquences dingues, comme celle où Paul Atreides chevauche un ver des sables. C'est un récit compliqué à suivre, un chemin si long, jusqu'à cette dernière scène où il était temps que le film commence.
Oui, moi j'ai pas compris grand-chose, honnêtement. Je pense qu'il faut décomplexifier l'esprit de ce point de vue-là. Je crois quand même que c'est extrêmement touffu et qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus très bien à savoir qui est qui fait quoi, contre qui, avec d'un côté des sortes de pseudo-fédaïnes, de l'autre côté ils ont des femmes voilées en face. Enfin, bon, il y a comme ça un mélange de choses un peu étonnantes. Il semblerait que ça soit assez fidèle au roman, oui, à Herbert. Hein, ouais. Bon, ça, il faut le mettre au crédit de Villeneuve parce que c'est un tel mythe d'une dans la littérature de science-fiction. Ça a généré tellement de choses, tellement de films, tellement d'univers, que là, après tout, la fidélité, c'est un bon moteur. On nous annonce un troisième épisode, peut-être sera-t-il le mélange des deux, du 1 et du 2, c'est-à-dire un peu plus calmé et en même temps avec de l'action.
Black Tide Abderrahmane Sissako Aya, une jeune femme ivoirienne d'une trentaine d'années, émigre en Chine, où elle travaille dans une boutique d'export de thé avec Kai, un chinois de 45 ans. Ils tombent amoureux, mais leur histoire suivra-t-elle au tumulte de leur passé et aux préjugés? Un récit onirique de somptueuses images, des flashbacks, des digressions, mais à force de mettre une distance avec ses personnages, Sissako nous éloigne de son propos.
Oui, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que dix ans après Timbuktu, on attendait le nouveau film de Sissako, quand même, parce que Timbuktu, ça avait été un sacré choc. C'est un peu curieux, ce film, son principal intérêt à mes yeux, en tous les cas, c'est évidemment cette espèce d'exotisme pour nous, qui est, et pour Sissako lui-même, qui est d'avoir découvert cette communauté africaine, noire, en pleine Chine. Et de ce point de vue-là, ça montre, par exemple, que le racisme est partout, mais ça, on vient de l'évoquer avec Nicolas Boukrieff, c'est pas vraiment une découverte, mais c'est vrai aussi, il faut avoir toujours ça en tête. Et le problème, c'est que Sissako semble avoir succombé un peu au charme, vous savez, asiatique du récit à la In the Mood for Love, ouaté, poétique, comme ça, un peu, on ne touche pas à grand-chose. Et ça donne un choc thermique entre les deux qui, à mes yeux, une fois de plus, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que cette quasi bluette dans un environnement qui est beaucoup plus explosif que ça humainement. Moi, je trouve que le mélange ne se fait pas.
Il n'y a pas d'ombre dans le désert de Yossi Aviram. À Tel Aviv, Ori croise par hasard Anna, c'est Valéria Bonitidesky, une écrivaine française, lors du procès d'un ancien nazi dans lequel son père, elle, doit témoigner. Il est bouleversé de reconnaître cette femme dont le souvenir le hante depuis qu'ils se sont follement aimés à Turin 20 ans plus tôt. Mais Anna soutient qu'ils ne se sont jamais rencontrés. C'est une écrivaine possédée par son sujet, un homme qui oscille entre fiction et réalité, le procès d'un ancien nazi, la mémoire de la Shoah, Antonioni dans le désert. J'avoue avoir été un peu perdu dans ce récit multiple sur l'identité.
Alors d'abord, c'est assez singulier de dire que l'actrice principale du film en est aussi la co-scénariste. Je trouve que ça donne un propos très intéressant et une implication de Valéria Brunetti-Tedeschi qui manifeste dans le propos, avec aussi un réalisateur qui la regarde et avec laquelle il a travaillé avant pour écrire ce film. Donc cette rencontre, moi je la trouve tout à fait intéressante et passionnante. Moi j'ai vu une œuvre très puissante avec effectivement un mélange des genres, un film de mémoire autour de la Shoah, un film de procès, parce qu'il y a beaucoup de scènes de procès, un film de famille aussi, il y a des parents, des mères, des pères, des enfants, et puis c'est aussi un film de désert, on y est, allez, d'une, on y retourne, mais là, franchement, je suis plutôt du côté de ce désert-là, dans lequel, effectivement, ils se perdent, ils se retrouvent, et c'est au final, une très très belle variation sur fiction et réalité, sur les vérités romanesques et les mensonges réalistes, pour aller vite.
Eureka de l'Argentin Lisandro Alonso. Il s'agit ici du sort réservé aux Indiens nord-américains sur un bout de terre et coupé de leur tradition, de leur mode de vie, raconté en trois histoires. Un anti-western en noir et blanc, celui que regarde cette femme shérif, c'est la deuxième partie, c'est la plus captivante, elle va nous emmener à travers son enquête dans cette réserve du Dakota, sous la neige, terrible portrait d'une région pauvre, violente et dévastée, tandis que la troisième partie, sa nièce qui l'attend, va elle choisir le grand voyage aux côtés de son grand-père et devenir un oiseau.
Alors c'est un film fleuve, un film labyrinthe, un film envoûtant, et toute la question est de savoir si on se laisse porter ou non, si on se laisse couler avec pour le fleuve, si on cède à ses charmes ou pas. J'avoue que moi, je me suis laissé absolument entraîner. Le pape du nouveau cinéma argentin, parce que c'est les drôles comme ça... On peut le résumer ainsi, pardon, nous propose un nouveau voyage en trois volets, en se permettant de dire des choses très fortes sur la condition indigène, le colonialisme. Les trois histoires sont évidemment en état d'apesanteur, il faut accepter cet état-là, mais autant de cinéma sur un temps long, parce que le film dure 2h30, autant de cinéma, autant de façons de montrer les choses, autant de temps prendre pour les montrer, c'est suffisamment rare pour être apprécié.
Oui, il prend son temps. Madame de Sévigné de Isabelle Brocard avec Karine Viard, Anna Girardot, c'est la marquise de Sévigné et sa relation avec sa fille, une relation filmée comme une relation d'ailleurs amoureuse, c'est ça l'origine du propos. Mais en revanche, la mise en scène est plutôt lisse, élégante et classique.
Oui, alors, bon, il y a un tropisme comme ça, évidemment, à être un peu dans l'air du temps, à force de faire de Madame de Sévigné une sorte d'héroïne féministe totale, avant la lettre, sans jeu de mots. Je suis pas sûr que ça soit vraiment comme ça qu'il faille parler des choses. D'autant plus que la relation intéressante entre une mère qui rêve d'un avenir pour sa fille et sa fille ne s'y prête pas, c'est un thème absolument universel qui n'est pas propre à Madame de Sévigné et sa fille. Et au fond, si la réalisatrice avait envie de parler de ça, on se dit qu'elle aurait pu s'abstenir de tout le fatras historique, de cette reconstitution effectivement hyper classique, vous avez raison. C'est dommage parce qu'il y a un propos et il est parasité par cet environnement.
Rien ni personne, c'est un premier film de Galien Guibert, un film noir, tourmenté et violent comme son protagoniste qui vole le stock de cam de son boss, s'enfuit avec son bébé. La suite est inévitable, inéluctable et programmatique.
Exactement. Prendre 90 minutes pour expliquer, montrer une fuite, il faut faire preuve à partir de là de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inventivité et ne pas juste faire confiance à la trépidation, l'énervement, la violence pour rythmer son film et pour l'emporter. Et les personnages sont malheureusement assez peu dessinés. Moi, j'ai un peu souffert même de voir Françoise Lebrun, grande actrice, à ce point-là, mise de
deux côtés.
Revivre, c'est un film de un doc de Karim Dridi, jour et nuit, deux couples de parents entourent leurs enfants de soins et d'attention dans l'attente d'un don d'organes.
Oui, alors bon, bah, dit comme ça, en fiction, ça ferait un mélo flamboyant. En documentaire, ça fait un film très très sensible et évidemment, on est en empathie permanente avec ces enfants qui sont entourés de machines. Ils ne devraient pas être là, ils ne devraient pas être dans cet environnement-là et ces parents qui vivent, hélas pour eux, un suspense absolument intolérable.
La mère de tous les mensonges de Asma El Moudir, on l'avait reçu, c'est un film fait à la main. Il n'y aura pas d'image de l'histoire de sa famille marocaine, alors elle va les fabriquer en décor et en figurines. Elle va remonter le temps, réouvrir les blessures et rejouer sa propre histoire et celle de son pays. C'est un film assez fascinant.
Assez gonflé.
Ça, c'est pas une sortie cinéma, mais un film tout de même, diffusé hier soir sur Arte et disponible sur le site quand vous le voulez. Ça s'appelle À la joie de Jérôme Bonnel, une rencontre au tout début du confinement entre une jeune avocate, Anna, qui s'est réfugiée dans l'appartement d'une amie et d'un voisin fantasque du quartier. Le monde entier s'arrête et tout est possible. Ce serait le postulat de cette histoire d'amour, folle, imprévisible, comme la situation qui peut dégénérer à tout instant, fragile, sur le fil, délicate, sensuelle, portée par deux sacrés jeunes acteurs. Vous en connaissez un puisque vous l'avez dirigé, Nicolas. C'est Pablo Poli. Il est incroyable dans ce film avec Amel Sharif. Voilà, vous l'aviez dirigé dans 3 jours et une nuit.
Oui, magnifique acteur.
Ouais. Laurent, il y a des reprises de Signé Claude Sautet.
Et oui, avant Les choses de la vie, il y a eu deux films, deux polars très noirs, Classe tout risque et L'arme à gauche, qui n'ont absolument pas marché à l'époque, parce qu'évidemment, sortir à peu près au même moment qu'À bout de souffle, c'était un peu compliqué. Manifestement, l'occasion est bonne de les définitivement réhabiliter, parce que ce sont deux films un peu à part dans la filmo de Sautet, mais passionnants avec la figure centrale de Lino Ventura.
L'arme à gauche et donc...
Et Classe tout risque. Classe tout risque. Absolument.
Maintenant, on arrive au cadeau et on va faire deviner à William Lebgill...
Cadeau.
C'est une scène, moi elle me fait toujours rire des années après. C'est un DVD qu'on va vous offrir, mais d'abord écoutez la scène.
Je sais pas.
Ça va ?
Oui. En fait, on se regarde jamais proche. Ouais. Chacun rit pour lui. Ouais. Vous comprenez pas ? Vous êtes à l'intérieur.
Ouais.
Oh non, je crois que ça va pas trop bien là. Je vais pas trop bien, il va pas trop bien.
Alors, elle reflète pas le film. Wow. Vous auriez pu jouer dans ce film, c'est une comédie.
Ah oui, oui. Ah,
c'est un dessin animé ?
Mais non !
Ah, pardon. Non. Le Péril Jeune, Cédric
Clapiche. Ah, mais je l'ai jamais vu, le
Péril
Jeune.
Mais non !
Génial. Alors, génial. On est très, très heureux de vous l'offrir, de le conseiller évidemment à nos auditeurs. Le Péril Jeune chez Rimini, un Blu-ray, un DVD et un DVD entier de bonus. C'est vraiment une très, très belle édition de chez Rimini. Génial. On est heureux de vous l'offrir.
Deuxième son, on va le faire écouter à Nicolas Boukreyev.
Look out ! Look out ! Look out ! Take care. You are being watched. We repeat, take care, for you are now alone with a killer.
Where are you? It's no good.
Watch out for Moira Shearer as the lovely stand-in who innocently dances into danger.
Don't be frightened. Hot. So
you have seen this film, please.
Oui.
Ouais. Vous l'avez vu, Le Voyeur de Michael Powell, sorti en 4K, magnifique
voilà
coffret.
Qui s'était bien planté et qui aujourd'hui est un classique.
Voilà.
Ouais. Chez Studio Canal, on vous le recommande chaudement.
Merci à Julien Baldacchino et Joseph Ascal pour les traductions de votre film, Nicolas. Merci à notre belle équipe, Xavier Pestugia, Christophe Magère et Thierry Dupin. Au revoir.
Salut.